Aujourd'hui, on va commencer une autre petite étude qui c'est une étude d'un livre. On va regarder l'Épître aux Philippiens. On va y aller comme verset par verset, selon ce que le Seigneur va m'inspirer. J'en ai plusieurs, j'en ai déjà une couple qui ont été faites à date, mais j'ai été faites il y a plusieurs années. Ils sont sur Internet. S'il y en a qui veulent aller lire, mettons, l'Épître aux Galates, l'Épître de Jacques, il y en a une couple d'Épîtres que j'avais faites au complet. Là, ce soir, on va commencer l'Épître aux Philippiens. On commence par une introduction pour nous mettre un peu dans le contexte de ce que c'était, puis après ça, on va y aller chapitre 1, verset 1, puis on part avec ça. Cette assemblée-là, c'était de Philippe. C'est une ville dans l'ancienne Macédoine, puis c'est au nord de la Grèce. Paul y écrivit cette lettre quand il était prisonnier à Rome. C'était environ à l'an 61 après Jésus-Christ. Puis, dans sa lettre, il voulait remercier les chrétiens de la ville de Philippe d'une subvention qu'il lui avait envoyée à Rome par Épaphrodite, l'un de leurs pasteurs. Puis là, dans sa lettre, il les informe de son état. Paul, il était prisonnier dans ce moment-là. Il les informe de son état, puis il leur adresse diverses exhortations. Cette assemblée-là était de Philippe, c'était la première ville d'Europe où l'apôtre Paul a prêché la bonne nouvelle. C'est au cours de son deuxième voyage missionnaire que Paul y fonda cette église-là, à Philippe. Il en parle, Paul, dans les Actes, au chapitre 16, à partir du verset 12. Ça nous raconte l'histoire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit survol rapide des différents types des événements qui s'est produit là, puis ça va nous mettre dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Philippe. Dans Acte 16, 12, ça dit, « De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. » Puis dans ce moment-là, qui était là, dans cette ville-là, il y a eu le moment où il a été dans un lieu de prière qui était sur le bord de l'eau. Il cherchait un lieu de prière, il est allé sur le bord de l'eau. Il a rencontré des gens-là, il a parlé du Seigneur. Puis là, il y a eu le salut de Lydie, qui était une marchande de pourpre, a été sauvée suite à cela. Il y a aussi, dans cette ville-là, dans ce moment-là, il a rencontré une servante qui avait un esprit de python, que là, il a pris autorité, il a chassé cet esprit-là. Puis là, dans la ville, suite à ça, les apôtres, ils ont été battus de verges, puis ils ont été jetés en prison. Puis là, c'est dans cette ville-là aussi qu'il y a eu un tremblement de terre, puis la libération de tous les prisonniers, que les chaînes sont rompues, puis les portes se sont ouvertes seules de la prison. Ça a donné l'occasion de sauver le geôlier et sa famille. Puis il y a eu ensuite la libération des apôtres qui lui ont dit, mais allez-vous-en, là. Puis ensuite, ils sont partis pour la ville de Thessalonique. Là, quelques années plus tard, alors que Paul est en prisonnier à Éphèse, selon certains théologiens, puis il y en a d'autres qui pensent qu'il est à Rome, selon d'autres, là, il a écrit cette lettre qu'il a envoyée à Philippe. Ça, c'est une couple d'années plus tard. Puis là, il écrit comme dans Philippiens 1:7. Tu vois qu'il est en train de raconter qu'il est en prison quand il écrit cette lettre-là. Il dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans ma défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. » L'apôtre Paul, en mettant ça en son introduction, est en train de raconter qu'il pensait toujours aux Philippiens, même si ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas vu. Puis, il est porté dans son cœur, dans ses liens, ou même quand il est en train de se défendre pour confirmer l'Évangile, parce que c'est un gars qui n'avait pas peur. Paul, il n'avait pas peur de parler du Seigneur, mais il y avait beaucoup d'opposition. Il n'y a rien en réalité qui était facile. Des fois, on voudrait les jobs faciles, mais en réalité, dans le Seigneur, si tu veux être au front, tu vas avoir des moments difficiles à traverser. L'apôtre Paul, il écrivit aux Philippiens une lettre. Ça nous dit spécialement au ton spécialement chaleureux. Tu vois, dans sa lettre, c'est une lettre comme il était content de lui parler. On commence avec le chapitre 1. Ça, c'est l'introduction pour nous mettre un peu dans le contexte. On va regarder, en lisant les versets, les points qui ressortent pour pouvoir apprendre des choses, comment est-ce que Dieu veut qu'on pense quand on est chrétien. Le chapitre 1, verset 1, c'est la présentation de l'auteur qui adresse cette lettre aux Philippiens. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. On voit que l'Église avait prospéré. Tout de suite en partant, on voit qu'il y avait plusieurs chrétiens, puis il y avait des évêques puis des diacres. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ouvriers qui travaillaient comme surveillants dans l'Église. Ça soit des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, on ne sait pas quel titre qu'il y avait, mais c'était des anciens qui étaient dans l'Église. Des évêques, c'est des surveillants, c'est le mot surveillant. Puis des diacres, des gens qui servaient dans cette Église-là. Elle avait prospéré. On voit que Paul il était accompagné de Timothée dans son temps en prison. Je ne sais pas si Timothée est en prison avec lui, mais c'est Timothée qui a amené la lettre, je ne sais pas, mais Paul est en prison pour écrire cette lettre-là, puis ça l'est envoyé à l'église de Philippe. Paul se présente accompagné de Timothée comme des esclaves au service du Seigneur, parce qu'il dit... Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Puis le mot qu'on a en français, c'est écrit serviteur, mais le mot grec là, c'est esclave. Fait que quand que Paul, souvent, là, plusieurs passages qu'on voit ça dans le Nouveau Testament, on voit souvent serviteur, mais en réalité, c'est plus que ça. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, t'es devenu un esclave de Jésus. En réalité, dans la vie, là, tout le monde est esclave. Soit tu es esclave du diable ou tu es esclave de Dieu. Tu peux pas être autrement. Tout le monde sont dominés par des entités spirituelles. Veux pas. On s'est donné au Seigneur, ça le dit. On est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. On est changé de camp, on est changé de royaume, on est changé d'autorité, on est changé de, comment t'appelles ça, le mot qui sert de roi, il y a un royaume, là, t'es un roi, là, qui règne sur nous autres. On est les serviteurs de ce roi-là, que soit c'était le diable ou là, c'est Dieu. On est des esclaves de Dieu. On est à son service. Pourquoi qu'on dit qu'on est des esclaves? C'est parce qu'on était rachetés. C'est plus que juste être un sujet, c'est qu'on était racheté. Il a payé quelque chose que ça coûtait pour qu'on lui appartienne. Il est propriétaire de notre vie, propriétaire de notre âme, propriétaire de ce qu'on est, de ce que nous sommes. Quand tu es un esclave, t'es un maître. T'as quelqu'un qui a droit sur toi de vie ou de mort. Puis Dieu, c'est ça, en fin de compte. Dieu, c'est le propriétaire de... En réalité, propriétaire de tout, même s'il y en a qui ne veulent pas, il était quand même le créateur, puis il est le propriétaire de tout, mais les gens, en parlant de nous, on a décidé volontairement de devenir un esclave de ce Dieu-là. Puis Paul le s'en servait. Le mot grec pour le mot strong que là pour serviteur, c'est un esclave. C'est un homme de condition servile. C'est vraiment dans le vrai sens du mot d'esclave que Paul il se dit qu'il est. Paul il vivait ce qu'il prêchait. Puis il avait expliqué qu'en tant qu'apôtre, qu'il était traité comme un esclave. Tu le vois que. Puis ça, on peut comparer ça avec notre vie à nous. Nous, on n'a pas gros d'opposition dans notre vie chrétienne. Hein? Quand on est chrétien, si on reste dans la maison, écouter la TV ou être sur l'ordinateur, tu n'as pas d'opposition. Mais quand tu es au front, puis tu vas pour servir Dieu, puis évangéliser, puis aller, pas, je dirais pas t'ostiner, mais tu vas confronter les faux raisonnements, puis les mensonges, puis tout ce qui est dans les pensées, comme les pensées de philosophes, ou les pensées de savants, ou les pensées de tout ce qui s'est construit pour essayer de construire une idée qu'on est dans la vie par une autre raison qu'à cause de Dieu. Puis Vous savez, tout assis, là, vous avez des excuses ou des théories pour essayer de s'opposer. On ne veut pas admettre qu'il y a un Dieu, puis on ne veut pas encore moins servir. Paul, lui, allait au front, puis il a dit dans 1 Corinthiens 4, 9, il dit, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Et jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ça, là, ça nous démontre comment ce que Paul pensait dans lui, comment ce qu'il vivait sa vie, lui, en tant que frapper l'opposition continuelle, puis de forcer pour avancer, faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, vous peut-être, il parlait dans ce passage-là aux Corinthiens, il lui disait, vous peut-être, vous êtes forts, puis vous allez bien, vous autres, mais pour nous autres, ça va pas si bien que ça. C'est pour ça qu'il se disait qu'il était un esclave. Il sentait que c'était une obligation pour lui d'aller là puis de le faire. Paul cherchait à travers ses lettres, quand il envoyait ces lettres-là, comme celle-là, à expliquer aux frères qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à souffrir. Dans Philippiens 1, 29, ça dit, « Car il vous a été faite la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. » Ça, il parle aux Philippiens, là. Il dit, c'est une grâce là, qu'on a pas juste de croire en Dieu, c'est une grâce qu'on a de croire en Dieu. Mais il dit, c'est pas une grâce juste de croire, mais encore de souffrir pour Dieu. Il est en train de dire, nous autres, on est des esclaves parce qu'on est au front, mais on a une grâce d'avoir connu Dieu, qu'on marche par la foi, mais c'est encore autant une grâce de souffrir pour Jésus. Souffrir pour faire avancer le royaume de Dieu. Puis ça, il lui dit ça dans le premier chapitre aux Philippiens. Il dit, c'est une grâce de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul, il est en prison quand il est en train de dire ça, puis il dit, je suis en train de souffrir pour le royaume, puis il dit ça, c'est une grâce, puis il dit, ça, sentez, vous aussi, en tant que chrétien, que c'est une grâce que vous avez de souffrir en soutenant le même combat que je souffre. Ça veut dire qu'il est en train de dire aux Philippiens, vous êtes appelés, vous aussi, à avancer dans le royaume, puis à aller jusqu'au bout, puis à subir les souffrances que je subis, à suivre le même exemple de cheminement que moi je fais. Paul est en train de lui dire ça. Il leur dit aussi plus loin, il parle encore aux Philippiens, un petit peu plus loin, il dit, dans Philippiens 4:9, il lui dit que ce qu'on voit de Paul, ce qu'on entend de lui, ben nous sommes appelés à soutenir le même combat si on veut que Dieu soit avec nous. Il lui dit ça dans Philippiens. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. On voit là-dedans que Paul... Il a poussé des phrases, là, des exhortés à ces chrétiens-là d'être prêt à aller jusqu'au bout comme Paul est prêt à aller jusqu'au bout. Puis de considérer les souffrances dans la vie chrétienne comme étant une chose à laquelle qu'on est appelé parce qu'on est des esclaves de Christ. Par la grâce de Dieu, les écrits de Paul y étaient lus par tous les chrétiens des églises. Toutes ces lettres-là, il est envoyé à tous les chrétiens. Fait quand il écrivait de quoi dans une lettre, c'est envoyé aux autres églises partout. Pourquoi? Parce que Dieu considérait que ces lettres-là, c'était ce qu'on devait apprendre quand tu es chrétien. Puis 2000 ans plus tard, on lit ces écrits-là, puis ça s'adresse à nous autant que ça s'adressait à eux dans ce temps-là. Il y a plusieurs lettres que Paul a écrites. Comme là, dans Thessaloniciens, c'est la même affaire, au chapitre 5, le verset 27, « Et je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Puis c'est mentionné dans d'autres lettres aussi, dans Colossiens 4, 16, la même idée. Il dit que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte que ce soit aussi lu dans les églises de Laodicéen et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Tu vois que la pensée de Paul, que quand il écrivait une lettre, il voulait que les lettres soient qu'atteignent toutes les églises, pour que ces exhortations qu'il faisait à travers ça puissent atteindre tous les chrétiens. Je suis sûr que ça n'attendait pas que ça dure 2000 ans, mais ils sont encore là 2000 ans plus tard. Puis il y a du monde qui sont encouragés, puis il y a du monde qui vont aller au front pour souffrir pour le Seigneur, parce qu'ils ont lu de ces écrits qui disaient « Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu, pratiquez-le, puis le Dieu de paix va être avec vous. » C'est ce qu'on veut, nous autres, ici. Le but de ces lettres était pour la croissance puis la formation des disciples. Tu vois là-dedans que c'était pas juste « Comment ça va? » »« Ça va bien, merci. »« La santé est bonne. » C'était pas juste « Comment en surface? » C'était des lettres qui emmènent un mode de vie, qui emmènent des pensées pour pousser, pour aller plus loin. Dans 2 Thessaloniciens 2,15, ça dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par nos paroles ou soit par nos lettres. » On voit qu'il parlait aux chrétiens, là, puis il lui disait « Vous n'avez reçu plusieurs des lettres, là. » Mais « Demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues par nos paroles ou par nos lettres. » Des fois, c'était de vive voix qu'il lui parlait. Mais souvent, c'était des lettres, puis on les a aujourd'hui, ces lettres-là. Puis c'était dans le but qu'on demeure ferme, qu'on retienne aussi les instructions qui sont reçues, parce qu'ils viennent du Seigneur. Les apôtres savaient que le fondement des églises était sur les enseignements des apôtres. Il dit, notre foi a été basée sur les enseignements des apôtres puis des prophètes, puis Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais les enseignements qu'on a viennent des lettres qu'on a reçues. C'est ça qui fait la base de la vie chrétienne pour notre enseignement, pour notre vie morale, comment est-ce qu'on doit vivre, puis notre nourriture spirituelle, puis la compréhension de ce qui se passe dans le monde invisible ou comment ça doit marcher dans la vie chrétienne. C'est tout écrit par les enseignements des apôtres, en majorité. Tout ce qu'on comprend vient de là. C'est sûr qu'il y en a qui en rajoutent, mais Dieu dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de rester dans ce qui est écrit. Même ses écrits, là, ses paroles vont demeurer éternellement. Dans Éphésiens 2,20, c'est dans ce verset-là que ça dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. La base, c'est Jésus, mais les enseignements qu'on a viennent des apôtres et des prophètes. Puis Paul, il savait que les chrétiens, leur foi, va être basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Fait que quand il envoyait des lettres, il savait qu'il était en train de bâtir les instructions de base que tous les chrétiens doivent savoir pour bâtir leur vie sur le fondement de la vraie foi, la foi authentique qui sauve. Puis tout le monde, en réalité, il savait aussi que tout le monde devait être informé sur les révélations du Seigneur, parce qu'en réalité, tout ce que les apôtres nous enseignaient, c'est par révélation. Ça dit dans parole, dans un autre verset, « Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. » C'est Dieu qui les a données. Oui, c'est des hommes qu'ils ont écrits, mais c'est... L'inspiration venait de Dieu pour communiquer aux frères et sœurs les bases de la doctrine. Les lettres devaient être utilisées comme une règle à suivre dans l'Église, puis servir aussi pour établir la discipline dans l'Église. Parce que dans les lettres, tu vois, il y a l'enlignement pour comprendre comment ça devrait marcher, mais il y a aussi il y a des fois que c'est arrivé qu'il y a des moments de discipline, puis il disait comment faire. Jésus en a parlé de la discipline basée sur ses écrits, puis Paul aussi en a parlé. Mais là, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais dans une des lettres, Paul y mentionne, dans 2 Thessaloniciens 3:14, il dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. » On voit là-dedans comme l'autorité qui se retrouve à être, qu'on retrouve dans les écrits des apôtres, que ça devait servir à établir des règles de discipline dans l'Église. Voyez-vous que l'autorité est basée sur ce qui est écrit. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça, pour nous introduire un peu. Pardon? Oui, c'est super bien. Ça, c'est le début de l'Épître. On est rendu au chapitre 1, verset 1. On va continuer en sortant les autres points au fur et à mesure que le Seigneur va m'y révéler.